Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce mercredi 16 juin, la pesanteur, celle des Bleus vainqueurs de l'Allemagne 1-0, ils ont fait une entrée magistrale dans l'Euro. La pesanteur, celle de Thomas Pesquet, dans 1h30, il fera une sortie dans l'espace pour poser un panneau solaire sur la station spatiale. L'ancien spationaute français Philippe Perrin, qui en a fait 3, évoquera avec nous ce défi technique et physique. Dans RTL Midi aussi, le réquisitoire magistral de l'avocate générale au procès du féminicide de Lille Rousse. Elle réclame la réclusion criminelle à perpétuité contre l'assassin de Julie Douhib, une peine qu'elle assimile à une mort sociale. Faire les courses va-t-il nous coûter plus cher? Vu la hausse de certaines matières premières, les industriels de l'agroalimentaire réclament une augmentation des tarifs de 9%. Et puis le coup de cœur de nos correspondants nous emmènera à Grande-Synthe dans le Nord et nous redonnera le sourire. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
La chaleur tourne à l'orage. Attention, 28 départements de la moitié ouest sont en vigilance orange.
Oui, et les orages les plus violents vont toucher cet après-midi la Bretagne et la Normandie avec de fortes pluies et de la grêle, puis du sud-ouest en remontant vers le centre, la Haute-Normandie entre la fin d'après-midi et cette nuit. Et à l'avant, donc sur toutes les régions de l'Est, c'est encore plein soleil toute la journée. Juste une petite averse orageuse possible sur les reliefs du sud. Les températures vont à nouveau grimper. 35 à Lyon, 34 à Toulouse et Paris, 32 à Lille et Marseille. Et toujours plus tempéré près de la Manche avec 23 à Brest.
La question du jour sur RTL.fr. Faut-il faire payer le stationnement aux motos et scooters thermique, puisque ce sera le cas à Paris. Vous êtes 53% à nous dire oui, il y a 39% de non. On attend vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal.
C'est des automobilistes.
Vous n'avez pas voté visiblement.
C'est des automobilistes qui ont dit il n'y a pas de raison qu'on paye et que les autres ne payent pas. Mais ça sera un bon sujet. L'autre sujet, c'est l'équipe de France, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Où étiez-vous? Comment vous avez vécu cette victoire? Puissance de l'équipe de France, sérénité, confiance. Vous pourrez également réagir aux mots de Didier Deschamps. Il y a toujours de la récupération, dit-il. Il parle du climat général dans le pays. Il y a une montée en puissance de l'agressivité, de la haine qui est très dangereuse. Ce serait bien de baisser un peu le volume. C'est des paroles très très fortes que j'ai écoutées dès ce matin dans la matinale et on pourra en parler tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Quelle entame! 15 100 000 téléspectateurs ont suivi sur M6 la victoire des Bleus 1-0 sur l'Allemagne pour leur premier match de l'Euro. 57% de part d'audience, c'est colossal. On mesure l'engouement pour ces Bleus. 2400 supporters français avaient fait le déplacement à Munich. Certains sont rentrés ce matin en bus jusqu'au Stade de France, sans voix, mais avec des étoiles dans les yeux, Sébastien Rouxel.
Ah oui, Christelle, la nuit a été courte. Les traits sont tirés, les voix cassées, mais sur tous les visages, celui de Fabien notamment, un très large sourire.
Fatigué mais heureux. En fait, ces étoiles qui brillent, c'est les étoiles de Coupe du Monde. On les avait un peu dans les yeux parce qu'on s'est dit, bah, on était acteurs de ce match-là, on y a participé. Ça fait tellement longtemps qu'on attendait de se retrouver aussi dans une compète avec la situation sanitaire qu'on a vécue. Tout le monde était très fatigué, mais tout le monde est très content.
La plupart autour de moi ont encore un maillot des Bleus sur les épaules, une écharpe autour du cou. Mais pour certains, comme David, il va falloir se changer assez rapidement.
Moi, je suis formateur d'anglais.
J'ai un cours visio de 2 heures et après, j'ai un autre cours visio. Mais tous mes clients savent qu'après un match, il y aura une voix un peu enrouée, mais ça fait partie du jeu.
Ça va pas être trop dur?
Non, non, surtout avec les 3 points.
Serge, lui, a un tout autre programme.
Non. 3 heures, on va faire un test PCR à Roissy parce qu'il faut repartir à Budapest vendredi. Je reste une semaine là-bas pour les 2 matchs.
Avec l'espoir de voir les Bleus finir premier de leur groupe pour les suivre ensuite à Bucarest.
On refait le match avec l'un de nos envoyés spéciaux, Nicolas Georgerot. Nicolas, les Bleus ont gagné 1-0, mais le score ne reflète pas forcément leur performance. On les a vus réalistes en attaque et très solides en défense.
Oui, et surtout sans s'affoler au plus fort de la domination allemande quand les ballons se multipliaient dans la surface de réparation tricolore. Quelques situations dangereuses de la Mannschaft, mais un collectif français qui a tenu le cap, les uns venant compenser, rattraper les petites erreurs des autres, investissement et implication de tous les instants, se félicite le milieu de terrain Adrien Rabiot.
On a été une vraie équipe, c'est vrai qu'on est sur le terrain, on l'a ressenti, on s'est beaucoup encouragé, on s'est beaucoup parlé sur toutes les lignes, que ce soit d'Hugo à devant à Karim, on a tous répondu, on a tous fait l'effort. C'est ce que le coach voulait, c'est ce que le coach nous a demandé et on est vraiment très contents.
Rabiot, auteur lui-même d'un tir sur le poteau, un pénalty qui aurait pu être sifflé sur une incursion de Mbappé. Cela aurait donné plus d'ampleur au succès, c'est certain. Les Bleus auraient pu être plus réalistes, mais le travail défensif acharné de Griezmann, Mbappé et Benzema a servi l'ensemble. Didier Deschamps a eu ses réponses.
L'analyse de Nicolas Georgerot. Les Bleus n'ont finalement pas posé le genou à terre. Si on doit le faire, a expliqué le capitaine Hugo Lloris, toutes les nations doivent le faire avec l'appui de l'UEFA. Et le très policé Didier Deschamps est sorti de sa réserve.
De toute façon, quoi qu'on fasse, les joueurs, quoi qu'ils disent, ça amène de l'interprétation, il y a toujours de la récupération, il y a un tel climat où ça part dans tous les sens. Et c'est du football, c'est que du football. Moi, je vous le dis depuis un moment, je trouve qu'il y a une montée en puissance de l'agressivité, de la haine, qui est très dangereuse. Ça serait bien de baisser un peu le volume pour retrouver un peu plus la raison de part et d'autre.
Didier Deschamps, micro RTL de Julien Fautra. Quant à la séquence ULM, un militant de Greenpeace a manqué de s'écraser en tribune hier soir juste avant le début du match. Il affirme qu'il voulait seulement survoler le stade. Il est en garde à vue à Munich. La réclusion criminelle à perpétuité requise ce matin contre Bruno Garcia Cruciani devant les assises de Haute-Corse. Il est jugé pour avoir assassiné son ex-compagne qui était aussi la mère de ses deux fils. Dans son réquisitoire, au mot choisi et implacable, l'avocate générale a aussi requis la déchéance de son autorité parentale, car elle a peur pour les enfants, Anne Le Hénaff.
Julie décide qu'elle ne sera plus sa chose et ça, il ne le supporte pas. Bruno Garcia a tué la mère de ses enfants comme on tue dans son propre clan, d'une manière hideuse. Dans sa robe rouge, Charlotte Bellier plaide sans aucune note, elle a tout en tête et elle tisse une démonstration qui ne laisse pas de doute sur la préméditation du geste. Tout était prévu, organisé. Elle tisse aussi une sorte de mea culpa. Le danger n'a pas été correctement évalué. Quand Julie va porter plainte, il n'y a pas d'enquête d'environnement. Nous n'avons pas su l'écouter. Puis elle se tait. Longtemps, pour que les jurés, quatre femmes et deux hommes, pensent aux quatre minutes que l'accusé a passé chez sa victime. C'est long pour Julie, elle s'est vue mourir. C'est long pour l'accusé, parce qu'à chaque instant, il pouvait changer d'avis. La famille de Julie pleure. À eux, au cœur de leur hiver, j'aimerais leur trouver un invincible été. Cet espoir, ce sont les deux enfants qui ne seront, dit-elle, pas les adultes qu'ils auraient dû devenir s'ils n'avaient pas vécu ça. Au titre de l'enfance, leur père leur a donné une saison ininterrompue de pluie. Faites donc en sorte que Bruno Garcia retire la main qu'il a sur ses enfants, cette main qui les maintient au garde à vous.
Récit Anne Le Hénaff, place aux plaidoiries de la défense. Verdict attendu ce soir ou demain. On fait une pause, le temps de payer le stationnement à Paris si on roule avec un deux roues à moteur essence.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Les motos et les scooters aussi. Paris va faire payer le stationnement pour les deux roues à moteur thermique dès l'année prochaine. Anne Hidalgo continue de réduire la place des véhicules polluants dans la capitale. Ils paieront la moitié des tarifs des voitures, mais c'est un début. Alors, faut-il vraiment en arriver là? C'est la question du jour sur RTL.fr et sur laquelle vous allez revenir avec les auditeurs, Pascal Croux.
Anne Hidalgo souhaite que Paris 2020 ressemble à Pékin en 70, tous en vélo. Voilà, c'est son modèle, qu'on soit tous en vélo. Donc on enlève tous les parkings pour les voitures, maintenant on enlève les parkings pour les motos, et il n'y aura plus que des vélos, même les piétons, on va avoir du mal à pouvoir circuler dans Paris. Alors évidemment qu'il ne faut pas faire payer les motos, mais j'ai peur que ce soit inévitable, et j'ai peur effectivement que ça se fasse jurisprudence dans toute la France, dans toutes les grandes villes de France, parce que ça sera une façon de gagner un peu plus d'argent pour les municipalités. Taxer, taxer, taxer. Voilà, un jour on sera taxé de stationner en marchant. Quelqu'un viendra et puis vous direz, vous attendez depuis 10 minutes, hop, 10 euros.
Bon, sachez quand même, Pascal, qu'il y a deux communes qui pratiquent déjà ce stationnement payant en région parisienne, Vincennes et Charenton. Agnès Bonfillon.
À Charenton, il y a des fous, paraît-il. Il y en avait jadis.
Oui, mais alors Agnès Bonfillon, elle a choisi d'aller à Vincennes, vous voyez. Et Agnès, au bout de 3 ans, il y a toujours débat.
Effectivement, Robert, lui, circule sur un 125 Forza, un scooter qu'il utilise tous les jours pour travailler en région parisienne. Il peste quand il vient à Vincennes, car pour lui, c'est une politique contre-productive et purement lucrative.
C'est qu'un tiroir-caisse, c'est le prétexte, c'est tout. À quoi ça sert de faire des deux roues? Premièrement, c'est pour circuler librement, plus facilement. Là, on nous interdit de parking payant maintenant, alors qu'il n'y a pas assez de parking pour les deux roues, il faut le savoir. Bon, on prend l'habitude de payer, de toute façon, c'est ça où vous êtes... verbalisé doublement.
Et ça lui est déjà arrivé pas mal de fois. 35 euros d'amende, autant payer 80 centimes de l'heure. Edith, elle, n'a pas ce genre de préoccupation. Elle circule à vélo, uniquement à vélo, comme de plus en plus d'habitants d'ailleurs. Elle voit un vrai boom, à tel point...
Quelquefois, le week-end, c'est difficile de trouver un emplacement. C'est complet parce qu'il y a de plus en plus de cycles. Tout le monde a sa bicyclette maintenant. C'est fini, on ne peut plus sortir avec sa voiture. Et puis, c'est fini, hein. C'est bien agréable, hein.
Un nombre parking, pistes cyclables, c'est un peu le royaume du vélo en plein centre-ville ici. Mais en quoi sommes-nous concernés? La plupart des conducteurs de moto ou scooters rencontrés ce matin se posent la question. Ils vivent toujours le stationnement payant comme une injustice.
Agnès Bonfillon, direct de Vincennes. Et le débat est ouvert au 32-10. Notre panier de course va-t-il nous coûter plus cher? Depuis un an, le prix des matières premières augmente. Le lait, le sucre, l'huile, même la viande. Car la crise sanitaire a réduit la production. Les industriels demandent une hausse des tarifs dans les rayons de 9%. Martial Liu, ont-ils une chance d'obtenir satisfaction? Rassurez-nous.
Dans l'immédiat, ça paraît compliqué. Donc j'ai envie de vous dire non. Parce que les négociations sur les prix avec les grandes marques nationales ont lieu une fois par an à la fin mars. Donc les prix sont arrêtés pour tout 2021. L'an prochain, il y aura certainement une hausse parce qu'effectivement les matières premières flambent depuis quelques mois, depuis la sortie progressive des confinements un peu partout dans le monde en réalité. Plus 20% sur les graines de moutarde depuis un an, plus 22% sur le blé en 6 mois, plus 60% sur le maïs. Et du coup, ça augmente aussi les coûts de production sur la volaille, sur le pain, sur les huiles. À cela, il faut ajouter la pénurie de carton et de plastique. On en a souvent parlé, mais c'est crucial pour les emballages. Alors maintenant, c'est un nouveau bras de fer qui va avoir lieu aussi, au cas par cas. C'est ce qu'a dit le patron de Lidl sur RTL ce matin. Il faut aider les agriculteurs, les producteurs, les PME françaises qui sont en difficulté, mais il faudra aussi sans doute être assez ferme envers des géants mondiaux qui continuent à dégager des marges confortables. On pense à des marques de soda ou des yaourts notamment. Donc il n'y aura pas une hausse uniforme des tarifs l'an prochain.
Mais privilégions les petits producteurs. Absolument. En attendant. Merci Martial. Le bac 2021, 190 000 élèves des bacs pro ont planché ce matin sur l'épreuve de français. Ils passeront 4 épreuves en tout, mais dans le contexte, seules les 2 meilleures notes seront retenues.
RTL Régional 2021.
À 4 jours du premier tour, gros plan sur les Pays de la Loire où le combat est serré. Christelle Morançais, la présidente LR de la région, est en tête des derniers sondages, mais talonnée par Mathieu Orphelin et sa liste écologiste et solidaire. Et on évoque déjà des alliances pour le second tour, Jacques Serret.
Oui, car sur les 8 listes en course, 5 obtiendraient les 10% qui permettent de se qualifier au second tour. Alors oui, pour gagner cette région, il faudra nouer des alliances. Et à gauche, un accord se dessine déjà entre Mathieu Orphelin, soutenu par Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise, et le socialiste Guillaume Garot.
Je l'ai dit, je suis transparent. Moi, je souhaite le rassemblement de la gauche et des écologistes au deuxième tour. Ce qui compte, c'est le choix des électeurs de la gauche pour placer en tête la personnalité et l'équipe qui permettra de battre la droite.
La droite, c'est la présidente sortante Christelle Morançais. Pourrait-elle se rapprocher du candidat de la majorité présidentielle, François de Rugy? Pas impossible, mais pour l'heure, l'ancien président de l'Assemblée nationale esquive la question.
Je ne fais pas de plan sur la comète sur le deuxième tour alors que le premier tour n'a pas eu lieu. Aux habitants de décider par leur vote le 20 juin au premier tour. Et puis ensuite, évidemment, il faudra voir ce qu'il est possible de faire pour le deuxième tour. Mais chaque chose en son temps, si on est déjà en train de parler du deuxième tour alors que le premier tour n'a pas eu lieu, c'est la meilleure façon de se planter, si on peut dire.
François de Rugy reste flou sur ses intentions, mais une chose est claire, il veut à tout prix éviter que la région Pays de la Loire ne tombe aux mains d'une alliance entre écolos, socialistes et insoumis.
Et j'ajoute que le candidat du Rassemblement national dans cette région, c'est Hervé Juvin. Notez que demain, RTL Midi fera étape à Toulon, en région PACA, où le Rassemblement National a une chance de l'emporter. Nous évoquerons notamment le thème de l'insécurité et de la délinquance. Jean Castex se déconfine. Sa période d'isolement en tant que cas contact est achevée. Il a pu participer au Conseil des ministres ce matin. Il tiendra une conférence de presse dans quelques minutes avec Olivier Véran. Il pourrait annoncer un avancement du calendrier. On pense en particulier au couvre-feu, de plus en plus difficile à faire respecter. Deux soldats français blessés au Mali lors d'une mission de reconnaissance. Ils ont engagé le combat contre un groupe de djihadistes. Un soldat nigérien a été tué. 10 terroristes ont été abattus avec l'aide d'un avion de chasse français. Une pause et dans un instant, on s'envoie en l'air avec Thomas Pesquet.
RTL Midi. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Il va flotter pendant plus de 6 heures à 400 km au-dessus de notre tête. Mais Thomas Pesquet n'est pas là pour faire du tourisme de l'espace. Il va réaliser dans 1h15 maintenant une sortie avec l'Américain Shane Kimbrough pour installer un nouveau panneau solaire sur la Station Spatiale Internationale. C'est une mission technique, complexe et risquée. Alors pour bien comprendre, nous sommes avec un ancien spationaute français, Philippe Perrin. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous avez réalisé, vous, 3 sorties dans l'espace. C'était en 2002 pour assembler l'ISS à l'époque. Pourquoi cette opération est-elle si délicate ?
Alors, l'espace est un milieu hostile, en l'absence d'atmosphère, avec des températures extrêmes. Et l'homme n'est pas habillé d'un scaphandre, il est habillé d'une armure. Donc vous avez en fait une armure qui vous protège, mais qu'il va falloir combattre pendant tout le temps de l'exercice. Pour pouvoir d'ailleurs... La bouger, elle est sous-gonflée, elle a un tiers d'atmosphère, donc il faut, pour que vous puissiez respirer, vous donner de l'oxygène pur. Et ne serait-ce que ça, l'oxygène pur, c'est inflammable.
Mais au fond, ça revient à faire travailler une espèce de bibindome qui ne sent rien et qui ne voit pas grand-chose, c'est ça ?
C'est même plus que ça, c'est ce que j'appelle un homme-machine, puisque en fait, vous obéissez à la station qui va vous télécommander avec le bras, vous obéissez à Houston en temps réel par des satellites géostationnaires, l'image que vous avez est renvoyée à Houston et Houston vous donne des ordres, vous êtes un homme-machine.
C'est fou. Et parlez-nous du scaphandre, vous parliez des températures tout à l'heure. Elle varie entre moins 150 et plus 150 degrés, vraiment ?
C'est ça, à peu près, on arrondit, mais la beauté du scaphandre, c'est qu'à l'intérieur, vous serez à 20 degrés, par un système réfrigérant. En fait, il faut comprendre que tout ce qui est dans l'espace se chauffe, puisque finalement, vous n'avez pas d'atmosphère pour évacuer la chaleur. Par contre, le soleil est là, et vous, votre propre corps chauffe, donc tout objet dans l'espace chauffe. Mm-hmm. Et il va falloir commencer par réfrigérer le scaphandre. Un système très particulier, on évapore de l'eau dans l'espace et en s'évaporant, cette eau crée des frigories qui vont refroidir le corps de Thomas.
Oh, c'est fou. Mais alors, parfois, il peut y avoir des incidents parce que en 2013, par exemple, l'Italien Parmitano a failli se noyer à cause d'une fuite du système de refroidissement. C'est dingue.
Et exactement, ça n'a pas été le seul problème. J'ai des images qu'on n'a jamais montrées où un astronaute en fait lâche un objet, il essaye de le rattraper, il se jette dans l'espace, il est rattrapé par son fil de vie et il se retrouve embobiné, si vous voulez, par le fil de vie, incapable de bouger. On a dû aller le chercher. Il y a eu des astronautes qui ont été malades. On peut être malade jusqu'à avoir envie de vomir et ça, c'est à ne pas faire parce que vous pouvez là aussi mourir finalement asphyxié, noyé. On peut être extrêmement fatigué parce qu'il y a un problème d'endurance, mais Thomas a cette capacité physique exceptionnelle connaît.
Pardon, Thomas Pesquet, il dit que ça revient à courir un 100 mètres sur la durée d'un marathon. Ça va durer 6 heures. Pourquoi est-ce que c'est si fatigant ?
Parce qu'encore une fois, c'est un scaphandre, c'est une armure et tout mouvement est contraint. Donc, c'est pas vous voulez bouger le bras, en fait, vous pousser contre une articulation mécanique pour que le bras puisse se tendre. Et vous êtes dans un bibindum, hein, encore une fois, on est quand même pressurisé à un tiers d'atmosphère, donc tout est très compliqué. Au niveau des gants. Oui,
parce qu'ils ne sentent rien.
Alors les gants, c'est comme si vous aviez des moufles au ski. Il faut qu'ils soient assez tendus et ils sont en général faits d'ailleurs à la taille de la main de l'astronaute. J'avais des gants qui étaient à ma taille et ils sont ajustés au millimètre près. Mm-hmm. S'ils sont trop ajustés, eh bien vous allez perdre les ongles. Moi j'ai des copains qui sont revenus avec des ongles noirs et qui ont perdu leurs ongles après les sorties. S'ils sont pas assez ajustés, en fait vous n'arriverez pas à toucher et à être précis dans vos manœuvres.
C'est fou, quelle technicité, ça nous rend admiratifs en tout cas. Merci beaucoup Philippe Perrin d'avoir témoigné sur RTL de votre expérience, hein, puisque
en
vous avez
direct
fait 3 sorties.
La Cité de l'Espace.
En direct de la Cité de l'Espace. Merci beaucoup, à bientôt. Rencontre au sommet au bord du lac Léman, un décor enchanteur pour un tête-à-tête tendu. Dans 10 minutes, Joe Biden rencontre Vladimir Poutine à Genève. Et les sujets de tension ne manquent pas. Cyberattaque russe, tension militaire à la frontière ukrainienne. Il sera aussi question du cas Navalny. Il y a comme un parfum de guerre froide.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Nous partons à Grande-Synthe, près de Dunkerque, retrouver des sourires. Même si le masque reste encore obligatoire, des anonymes se sont fait prendre en photo et leur visage vous sourit. dans toute la ville. Près d'une centaine de panneaux sont exposés, Franck Hanson.
Oui, et ce projet souriant est parti un peu comme une blague lors d'un échange entre habitants qui se sont découverts sans masque. Khadija, la responsable de la maison de quartier.
En échangeant avec eux, on s'est dit, bah tiens, pourquoi pas effectivement mettre un petit peu des photos un peu partout dans la ville, permettre aux gens de voir de nouveaux sourires, de voir les gens sans masque.
Et sur les grilles à l'extérieur, des grands panneaux avec ces visages d'anonymes, souriants, Laurence, Nadine et Yasmina ont joué le jeu.
Là on voit, on est devant les photos, là, certaines photos qui sont accrochées dans la ville.
Ouais, un petit peu partout,
ça c'est les habitants, voilà. C'est ça.
Ouais, c'est les habitants, c'est Janine. Hein.
Ça fait plaisir de voir les vrais sourires qu'on avait avant, parce que je me suis mis planqué, comme ça on ne me voit pas beaucoup. On n'a pas la même tête qu'avant.
Ouais. On a posé, on est bien. On n'a pas tous les jours envie de sourire, mais il faut quand même. Justement, ouais. Oui, il y a une jeune fille que je connais, elle m'a dit « Tiens, t'es bien sur la photo ».
Et dans ces quartiers de Grande-Synthe, cela change un peu, Christelle, des panneaux électoraux.
C'est un rayon de soleil dans la ville, quoi, c'est tout. Hein. Ça ramène de la gaieté, après cette pandémie. Quoi. Ils ont tous des personnalités différentes, des âges différents. Ouais. On attend tout ce que ça, c'est d'enlever le masque.
Et ces visages, ces sourires, le commencement de l'amour, selon certains, devrait rester en place au moins tout l'été.
Et c'est tant mieux, merci Franck, parce que le sourire est communicatif. Vous avez le sourire vous aussi, Pascal Praud, aujourd'hui.
Oui,
vous avez adoré les Bleus hier soir.
Bien sûr, et j'ai adoré les Bleus, la puissance, la sérénité, la confiance, l'esprit collectif, l'esprit d'équipe et de ça, formidable. Simplement, j'ai retenu dans votre journal ce qu'a dit Didier Deschamps, lorsqu'il dit qu'il y a une montée en puissance de l'agressivité, de la haine qui est très dangereuse. Deschamps, il ne dit jamais rien. Il est comme Zidane.
C'est ça qui est d'autant plus intéressant.
Mais bien sûr, il ne dit jamais rien parce que précisément, il sait combien sa parole porte. Et comme Zidane, il se méfie de l'influence qu'elle peut avoir. Donc, c'est des gens qui sont extrêmement discrets sur la société. Ce qu'il a dit là, c'est la première fois, je n'ai pas souvenir, qu'un sélectionneur ait dit cela. Donc, s'il le dit, vraiment, c'est qu'il le pense d'abord. Et que c'est la situation, elle est grave. En tout cas, elle est préoccupante. Et on pourra réagir là-dessus. Comme on pourra réagir sur à 13h, on attend des nouvelles extrêmement importantes, chère Christelle. Il est possible que nous soyons libérés. Couvre-feu.
Libérés, délivrés.
Exactement.
On va peut-être attendre les annonces de Jean Castex. Mais on est sur le coup, vous inquiétez pas.
Oui, bien qu'on vous inquiétez pas. Mais on peut aussi les annoncer, si on sait.
Si on n'est pas sûr...
Moi, je suis sûr.
Ah bon,
que le couvre-feu saute.
Pas nous.
Écoutez, voilà. Donc je vous le dis.
Voilà, on va y revenir de tout à l'heure. Hein. En attendant, la météo, c'est extrêmement important aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'orages, Peggy Broch.
Oui, exactement, Christelle. 28 départements de l'Ouest sont en vigilance orange. Orages entre la Nouvelle-Aquitaine, le centre, la Normandie. Alors les orages les plus violents vont commencer cet après-midi entre la Bretagne et la Normandie avec de fortes pluies et de la grêle. Puis, autre évolution orageuse en fin d'après-midi d'abord sur le Pays Basque en remontant entre la soirée et la nuit vers le Poitou et le Val-de-Loire et à l'avant, donc sur toutes les régions de l'Est à partir des Hauts-de-France, Île-de-France, toujours plein soleil. Des températures, elles restent élevées, elles remontent même au nord. Hein. 35 à Nevers, Grenoble, Montauban, 34 à Bordeaux, Strasbourg et Tours, 33 degrés à Biarritz, Besançon et au Mans, 31 à Nîmes, 27 au Havre et 24 à Cherbourg.
Et demain, toujours des orages ?
Toujours, oui. Alors ceux d'aujourd'hui vont s'évacuer sur les Hauts-de-France, par les Hauts-de-France, et d'autres vont remonter demain après-midi des Pyrénées au Pays de la Loire et Île-de-France. Des orages locaux fort avec de la grêle. Encore, on aura le temps de profiter malgré tout d'une matinée plus calme et plus lumineuse, sauf sur la Bretagne, Normandie et le Sud-Ouest. Là, ce sera plus nuageux. Et toujours du soleil sur l'Est et des températures qui vont baisser à l'Ouest, du coup, avec les orages et qui resteront très élevées à l'Est. 18 à Brest, 36 à Strasbourg. Donc, vous imaginez le contraste entre l'Est et l'Ouest. 24 à Bordeaux et 31 à Paris et Nîmes.
Merci, Peggy. Ensuite, ça va redescendre un petit peu, quand même.
Exactement.
Hein. Merci. À suivre le rappel des titres. Il va être 13h sur RTL.
RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
D'une seconde à l'autre, nous attendons les déclarations de Jean Castex et nous pourrons les écouter en direct. Mais avant cela, on parle évidemment de l'équipe de France hier soir et de sa belle victoire. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Vous êtes content ?
Très content et rassuré.
Rassuré, écoutez, nous le sommes aussi. Le rappel des titres avec Christelle.
Oui, Jean Castex fera un point dans quelques minutes sur la situation sanitaire et les étapes du déconfinement. Le Premier ministre qui était cas contact vient de reprendre ses activités. Il devrait annoncer la levée du couvre-feu. Un couvre-feu difficile à respecter hier soir. C'était la fête après la victoire des Bleus 1-0 sur l'Allemagne. Une entame parfaite dans cet euro. Un combat de titans, a dit Didier Deschamps. Le match a été suivi par plus de 15 millions de téléspectateurs sur M6. La réclusion criminelle à perpétuité requise ce matin contre Bruno Garcia Cruciani devant les assises de Haute-Corse. Il est jugé pour avoir assassiné son ex-compagne, qui était aussi la mère de ses deux fils. Dans son réquisitoire, l'avocate générale a aussi requis la déchéance de son autorité parentale pour protéger les enfants. Un parfum de guerre froide dans la rencontre Joe Biden-Vladimir Poutine en ce moment même à Genève. Les relations entre les deux pays sont au plus bas. Il sera question notamment de cyberattaques ou encore des tensions militaires à la frontière ukrainienne.